Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque. Alors il y a autour de ce micro Catherine Bianchi pour les protestants, Jean-Pierre Dubreuil pour les humanistes, Jean Bodvini pour les juifs, Marie-Chantal Renard pour les humanistes, Chantal Matelet pour les catholiques et puis Raymond Degui pour la technique de l'émission de radio. Voilà, eh bien nous avions convenu que pour cette émission, nous évoquerions les conversions, mais toujours, comme dans cette émission habituellement, nous commençons par les nouvelles que vous pensez importantes. Jean, vous évoquiez la tuerie de Toulouse.
Oui, dans cette triste période de guerre qui tue pour rien, ont lieu des commémorations en France pour le 10e anniversaire de la tuerie de Toulouse. Le 11 mars 2012, le tueur Mera s'en est pris au soldat Imad Ben Ziaten, qui avait 30 ans, puis le 15 mars à trois autres militaires, Abad Chenouf, 25 ans, et Mohamed Lagouad, 23 ans, qu'il tua, et à Loïc Libert, qui avait 27 ans, qui va rester tétraplégique pour le restant de sa vie. Puis le 19 mars, entrant dans une école juive, il tua le professeur Jonathan Sandler, qui avait 30 ans, et ses deux enfants, Arié, qui avait 6 ans et demi, et Gabriel, 3 ans et demi, et Myriam Monsonego, qui avait 3 ans, 8 ans et demi. Madame Latifa Ben Siaten, qui est venue à Dreux, comme dans beaucoup d'autres villes, pour expliquer que la religion est incompatible avec le meurtre, a dit « Avec la haine, on ne gagnera pas ».
Eh bien, on retrouve ces mêmes propos dans les droits de l'homme et on les retrouve aussi dans l'Évangile où finalement le Christ promeut l'amour des autres.
On la retrouve dans le cinquième commandement.
Et on la retrouve, souvent dans toutes les religions et dans les droits de l'homme. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Alors il y a bien sûr l'unanimité qui s'est développée autour de l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les manifestations, en tout cas celles qu'on a vues à Dreux, il y avait véritablement l'unanimité entre ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, entre ceux qui étaient syndicalistes, ceux qui étaient enseignants, ceux qui étaient vieux, ceux qui étaient jeunes. Et même, il y avait aussi des Ukrainiens qui étaient réfugiés des années 2014, mais aussi d'autres qui étaient ukrainiens parce que la vie les avait amenés là, et puis quelques réfugiés. Donc on perçoit là comment une situation catastrophique permet de faire l'unanimité entre les religions et entre ceux qui n'en ont pas, entre ceux qui croient aux droits de l'homme ou simplement au fait que nous sommes faits pour vivre ensemble. Et notre thème, c'était justement les religions et le passage de l'une à l'autre ou l'abandon de la religion. Donc, c'est autour de cette question que nous allons échanger les propos aujourd'hui. Alors, vous commencez.
Je me suis demandé ce qu'il en était dans le judaïsme à propos des apostats. Alors d'abord, la définition des apostats traditionnels, c'est un adorateur d'idoles ou un athée ou celui qui dit que Dieu ne gouverne pas le monde. Dans la Torah, en Exode 22, il est condamné à mort, mais à partir du retour d'exil de Judée en moins 450 avec Ezra, il sera excommunié, ce qu'on appelle le cherem en hébreu. C'est une exclusion de la communauté. On en connaît au moins un exemple célèbre, c'est Spinoza, qui à 24 ans contestait la vérité de la Torah, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Voici un extrait de cette condamnation. Nous excluons, chassons, maudissons, exécrons Baruch de Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté, que son nom soit effacé dans ce monde et à tout jamais. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est encore d'actualité ? Alors j'ai trouvé quelque chose d'assez extraordinaire. En décembre 2021, donc il n'y a pas très longtemps, un professeur de philosophie de Baltimore, spécialiste de Spinoza, a fait une demande à la synagogue portugaise d'Amsterdam de pouvoir y tourner un documentaire sur Spinoza, dont c'était la synagogue à l'époque. Le rabbin a rejeté sa demande en raison de l'excommunication, toujours en vigueur selon lui, et lui en a donc interdit l'accès et a déclaré le professeur persona non grata. Ça a été jusque-là.
Il n'a pas été excommunié, c'est déjà ça.
Mais les dirigeants de la communauté ont été mis en courant et ils ont annulé la décision du rabbin et le professeur a pu tout à fait tourner son documentaire, s'inspirant ainsi de la liberté de conscience et je vais dire européenne dans laquelle nous vivons. De la même manière, si la conversion du grand rabbin de Rome le 13 février 1945 et celle du cardinal Lustiger, qui revendiquait toujours leur appartenance au judaïsme, choquèrent les communautés, il a été récité le kaddish, donc la prière pour les morts, entre autres, lors de leur mort, car un juif converti reste un juif, ou comme le dit le psaume, même quand le peuple juif a fauté, Dieu reste fidèle à son peuple, donc on est loin d'une condamnation à mort. C'est donc pour les convertis ou pour les gens qui quittent volontairement finalement le judaïsme. Et le cas n'est pas tout à fait identique pour les gens qui vont être, dans l'histoire du peuple juif, être obligés de se convertir sous peine de mort.
Oui, alors c'est vrai qu'on a dans l'histoire quelques exemples très tragiques de ces conversions et puis aussi de l'obligation d'être de telle ou telle religion. Enfin, je crois que jusqu'à la Révolution française, jusqu'aux philosophes, chaque individu n'avait pas le droit à sa propre religion et la loi était d'avoir la religion de son seigneur. Ça se disait en latin « cujus regio et jus religio ».
Oui, et puis chez les protestants, Luther, qui était quand même un moine augustin, allemand, et qui a été scandalisé par le commerce des indulgences des papes Jules II et Léon X, pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et en 1517, il affiche ses 95 thèses sur la porte du château de Wittemberg. Alors évidemment, ça fait de remous dans l'Église catholique. Il a fini par être excommunié. Et finalement, il a tourné le dos définitivement à l'Église catholique. Et c'est de là qu'a démarré le protestantisme sous la Réforme. D'où les réformés. Et très vite, Calvin a adhéré aux idées de Luther et ont répandu la réforme en France, si vous voulez. Mais il y a eu quand même les 8 guerres de religion qui ont fait qu'il y a eu des persécutions. Et les protestants étaient contraints, parce qu'à cette époque, c'était un petit peu l'Église catholique qui gouvernait la France, l'Église catholique imposée dans toute la France, dans tout le royaume. Et donc, les protestants ont été pourchassés à plusieurs reprises, et ou il fallait qu'ils quittent le pays, ou alors qu'ils se convertissent.
Alors avec des épisodes plus ou moins tragiques, comme les dragonnades.
Les dragonnades, oui, bien sûr. Alors certains ont pris la fuite dans les pays d'accueil, comme la Suisse, évidemment, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre.
Les pays qui étaient devenus protestants.
Et puis d'autres ont fait semblant d'abjurer, mais tout en vivant leur foi protestante chez eux, en cachette. Puis après, il y a eu la guerre des Camisards qui a quand même... il y a eu les dragonnades, comme tu dis, sur Dreux. Les protestants ont été contraints de... En novembre 1585, il y a eu des abjurations à l'église Saint-Pierre de Dreux. L'évêque de Chartres, à l'époque, c'était Monseigneur Ferdinand de Neuville. Et il y a eu, en 4-5 jours, il y a eu environ 300 personnes qui ont été contraintes d'abjurer. Alors, au lieu de signer leur nom, parce que les protestants, tous à l'école, lisaient leur Bible, Et pour pas signer leur nom, ils mettaient une croix, quitte à passer pour des illettrés, alors que pas du tout, ils savaient très bien lire, mais leur nom n'était pas cité. C'était l'abjuration ou l'exil. Et les pasteurs ont été persécutés de la même façon.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'exil, les gens allaient dans des pays où il y avait le protestantisme, qui était devenu la religion d'État, c'est-à-dire qu'il fallait être protestant ou non. Et on voit par exemple aux Pays-Bas des gravures, à Amsterdam par exemple, de nombreuses images montrent comment dans les églises anciennement catholiques, on a enlevé les images, les statues de saints, etc. Et puis on a pourchassé les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de la religion fait partie de l'identité de l'individu et restait très très forte au XVIe, XVIIe, enfin. Et il a fallu la Révolution française et puis beaucoup de temps pour faire entrer dans les mœurs que la liberté religieuse est fondamentale.
Calvin était prosélyte. Quel était le regard sur les juifs à l'époque ?
Alors Luther, il n'a pas été très cool.
Donc le regard sur la religion des autres.
Sur voilà. La religion des autres.
Calvin plus. Mais Luther, il a été assez rude avec les juifs, ça c'est clair.
Non, mais on voit
et puis tous ces protestants qui ont refusé d'abjurer, qui ont choisi l'exil. Tous ces protestants avaient quand même des métiers qui ont enrichi les pays d'accueil. Hein, comme en Suisse, il y a eu des horlogers, il y a eu des différents métiers qui ont permis de bien s'intégrer, et les pays d'accueil leur ont été reconnaissants. Et puis, il y a quand même cette période du refuge, ou ce qu'on appelait le refuge pour les pays d'accueil, qui a renforcé un petit peu l'opposition entre l'Europe du Sud catholique et l'Europe du Nord protestante.
C'est très intéressant ce que vous faites remarquer, parce que en fait, on a des textes de Louis XIV qui ordonnent que l'on n'inquiète pas les tapissiers de certaines régions qu'il fait venir en France parce qu'ils ont une religion différente, et il ordonne que justement ils aient cette liberté religieuse parce qu'il veut les avoir et qu'il y ait le développement des métiers. C'est intéressant parce qu'on voit l'instrumentalisation de la religion. De la même manière, on voit le cardinal de Richelieu pourchasser les protestants en France et soutenir les mêmes protestants dans l'empire de Charles Quint, c'est-à-dire pour affaiblir l'autre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le fait religieux, mais souvent l'instrumentalisation du fait religieux par les autorités politiques pour utiliser la pression religieuse sur les consciences. Et ça, c'est quelque chose qui, quelque part, je trouve, existe encore. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Justement, dans les mariages, quand on dit mariage mixte, c'est-à-dire entre catholiques et protestants, bon, moi, je sais de quoi je parle, le protestant garde sa religion, mais l'Église oblige aux catholiques de les faire baptiser et de les élever dans la religion catholique. Et en fin de compte, par expérience, je sais que les enfants sont plus croyants même que le père qui était protestant. En fin de compte, même donner une religieuse dans la fratrie. Mais cette obligation, en fin de compte, je trouve qu'il n'y a aucune liberté, cette obligation de ne pas laisser les parents choisir la religion pour les enfants, je trouve que c'est dommage, en fin de compte.
C'est une intrusion.
Oui, c'est une intrusion. Enfin, cette obligation, après, c'est manque de liberté. Hein,
c'est quand même après un choix des parents de choisir ou non.
Non, non, ils sont obligés. Non, ils sont obligés.
C'est ce qu'il dit.
Oui, ils sont obligés de élever leurs enfants dans la religion catholique.
En tout cas, ils signent un papier dans ce sens. Après,
oui,
ce qu'ils font, c'est, ça les regarde.
Oui,
ce qu'ils
font, les enfants, après, choisissent peut-être un autre truc. Mais au départ, c'est ça.
Mais effectivement, quand
mais même récemment, enfin, il y a quoi, une dizaine d'années, un de mes cousins, donc protestant, réformé, qui épouse une catholique, il a fait baptiser son gamin à l'église à la Côte-Saint-André. Eh bien, ça a été fait en catimini. C'était pas dans la grande mecque, en douce, dans une petite niche, voilà, et puis hop. Et c'est tout juste si mon cousin n'a pas été, comment on appelle ça, exorcisé pour assister au baptême de son fils à l'église catholique. Donc,
Ça s'est fait en catimini.
En catimini, dans une
dans la famille, ça s'est pas fait en catimini, okay. C'était...
On valait là dans ce point-là.
Ah ouais.
Alors, je vais vous dire qu'on a tous sorti notre poème.
La sottise est bien répartie, c'est tout.
Comment?
Ça veut dire que la sottise est bien répartie, non? Bon. Mais c'est vrai que quand on baptise, en tout cas, puisque je prépare au baptême, on demande aux parents l'engagement d'élever leurs enfants dans le catholicisme, lorsqu'ils demandent un baptême à l'Église catholique. Alors, bon, enfin, voilà.
C'est... Mais est-ce qu'il y a, je dirais, un contrôle, si je puis dire, de la fille? Non.
De ma part, je récupère le papier. J'ai fait remarquer au... Enfin bon, mais ça, c'est une opinion. Non, ici, je suis en principe tenue de dire ce que veut l'Église. Mais je pense que c'est très, très dommage parce que ça amène les gens à ne pas... Comment dirais-je? Ne pas suivre leur propre conscience. Ouais. Ça, je trouve que c'est contradictoire avec la liberté des, avec la liberté des personnes. Et quelque part, c'est... on mésestime l'Évangile en faisant cela. Mais bon, c'est la règle catholique. Maintenant...
Je voudrais revenir sur les conversions forcées.
Oui.
Ça a commencé avec les nouveaux rois convertis au catholicisme, à la chrétienté, et en particulier, donc, ça a commencé en Espagne en 615, avec la conversion récente du roi Sigisbert, et qui a donné le choix aux Juifs entre le baptême, le bannissement, avec la confiscation des biens, et puis le roi Franck, on connaît tous par sa comptine, Dagobert, qui, avec l'aide du bon Saint-Éloi, en 632, donc pas loin après sa conversion, a également obligé les Juifs à se convertir. Ça a continué ensuite en Espagne, qui avait été conquise par les musulmans sous le régime pendant un siècle et demi des Almohades. Et dès 1130, ces Almohades vont donner le même choix entre la mort en cas de refus à la conversion. C'est alors qu'apparaissent des crypto-juifs musulmans d'apparence qui continuent à être juifs en cachette. Alors, ça pose un problème. Les rabbins de l'époque se sont demandé si l'islam était une religion idolâtre et ils ont décidé que non, ce qui autorisait les juifs à se convertir pour éviter le martyre. Et donc, en autorisant une forme de taqiyya, la taqiyya c'est la dissimulation qui est très utilisée en islam pour y arriver. Cette dynastie avait taxé les juifs et les chrétiens de polythéistes. C'est pour ça que eux, les Almohades, ne reconnaissaient pas que la chrétienté et le judaïsme étaient issus du Dieu unique. Ils avaient dit que ce sont des polythéistes et dans le Coran, les polythéistes, on pouvait les massacrer. Mais la confiance ne régnait pas et ils obligèrent les musulmans d'origine juive à porter un signe distinctif. C'était une pièce d'étoffe jaune attachée à la veste. Et ce vêtement spécifique est resté en vigueur en Afrique du Nord jusqu'à la colonisation en 1830. Puis, avec la reconquête de l'Espagne par les rois catholiques, les Juifs en furent expulsés en 1492 s'ils ne voulaient pas se convertir ou même être brûlés au Portugal quelques années plus tard. Et là aussi, ils se convertissaient en gardant en secret leur religion et ils furent nommés les Maranes, voilà, ce qui signifiait marrant, oui. Les porcs. Alors, on ne sait pas très bien si c'était parce qu'ils ne mangeaient pas de porc ou bien s'ils étaient considérés comme des porcs, et ça on peut le retrouver dans les sculptures d'église à Colmar et en Allemagne, où sur les porches de l'église sont sculptées des magnifiques truies avec beaucoup de mamelles, des enfants qui têtent à la mamelle, et un rabbin sculpté donc qui met sa main dans l'anus du porc. Donc ce qui veut dire que les Juifs sont des enfants des porcs. Et je me suis demandé si le judaïsme était prosélyte à son tour. Alors, du temps de Jules César, il y avait environ 10% de la population de l'Empire qui était juif. Avec sa croyance en Dieu unique et d'en être tous issus, d'en être tous, et c'est ça que le monothéisme nous a fait à nos trois religions, on est tous enfants du Dieu unique. Donc on est à l'égalité, et pour ces civilisations d'esclavagistes, c'était très intéressant. Et donc il y avait beaucoup d'hommes libres ou esclaves qui ont adhéré au judaïsme, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il y avait la circoncision à faire, et donc on les a appelés les gens qui restaient à la porte. Et probablement que l'essor du christianisme est venu du fait que la circoncision
n'était pas obligatoire.
C'est un gros débat, ça. Alors plus tard, avec les deux religions filles et monothéistes, les rabbins ont dit que si Dieu est un, si les traditions du livre se réfèrent au même livre, quel sens y a-t-il à changer de camp ? En effet, les justes qui observent les sept lois de Noé seront sauvés, peut-être même mieux que les juifs qui devraient obéir à 630 commandements au lieu de 7 pour les non-juifs.
Ce qui est intéressant, c'est que depuis le Concile Vatican II, les baptêmes sont reconnus d'une religion à l'autre. Le baptême protestant est reconnu, enfin, je veux dire qu'il y a eu des accords, et on ne rebaptise pas quelqu'un qui se convertit.
C'est une avancée.
Hein. Oui, n'est pas rebaptisé.
On est chrétien.
On est chrétien, oui, c'est ça. C'est assez intéressant parce que ça ouvre quand même à une certaine tolérance, et effectivement, on perçoit que les textes sont bien en retard par rapport aux pratiques. Mais, en ce qui concerne les pratiques, que peut-on observer dans la société ? En ce qui concerne justement cette pression sociale qui amène à suivre une religion, est-ce que ça existe encore ? Parce que dans les villages, autrefois, effectivement, on était tous cathos dans un village cathos, ou tous protestants dans un village protestant, dans une société protestante.
Personnellement, mes parents, ma mère était un peu religieuse. Elle a encouragé le fait que je suive une éducation religieuse. Hein. J'ai été scout catholique, j'ai fait ma communion, etc. Quoi. Je ne peux pas dire qu'il y a eu de pression. Hein. Il n'y a pas eu de pression. Et de même, quand j'ai eu des doutes sur l'intérêt de croire en Dieu, il n'y a pas eu de pression non plus.
Voilà, on laisse en fait la liberté.
Ah, oui.
Il n'empêche que...
Oui, alors.
Moi, il y a un film qui était très drôle. Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, etc. J'ai trouvé que c'était... Ça voulait dire quelque chose. Il est drôle, ce film. Hein. Une famille chrétienne, et il y en a une qui se marie avec un musulman, un autre qui se marie avec... Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est pas rien de dire ça. C'est un film qui a eu lieu il y a 3 ans. Ça veut dire que quelque part, ça reste là. Qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu pour qu'un enfant ne choisisse pas quelqu'un qui est comme lui, ou comme ses parents ?
Oui, mais justement, moi je rejoins Jean-Pierre. Quand on a des enfants, les parents donnent une éducation religieuse, comme Jean-Pierre fait. Après, à l'enfant plus tard, en développant des... En apprenant, en réfléchissant, il adopte ou non telle ou telle religion, ou pas du tout, si vous voulez. Mais ça permet de réfléchir.
Je crois que le problème fondamental, c'est le regard d'une religion sur une autre religion.
Exactement.
Et je ne parle que des religions monothéistes. C'est pour ça que moi, je trouve tout à fait remarquable la pensée de nos rabbins, pour les citer, que puisqu'on est tous issus du même Dieu, Est-ce que je peux pénétrer dans le paradis des chrétiens ou des musulmans? Ou est-ce que les musulmans peuvent pénétrer dans mon paradis? Mais si, alors nos rabbins ont réfléchi à la question, parce que c'est ça la question fondamentale, d'admettre l'autre. Et ça veut dire liberté de conscience. Grosso modo, agrandi à l'ensemble de nos pensées, et ça fait la laïcité, en réalité. Et grâce à la laïcité, on peut avoir cette, en France tout au moins, cette liberté de penser et de voir que j'espère que je serai dans votre paradis et je pense que vous serez dans mon paradis.
Oui.
Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père.
C'est intéressant. Moi, ça me paraît de la poésie pure ce que tu viens de dire. Mais bon. Ça ne me choque pas du tout, hein. Je trouve que
c'est...
Oui, non, non, mais là, c'est là qu'on voit qu'effectivement, la vraie laïcité, c'est quoi? C'est la liberté de conscience et d'expression pour tous. Point. Je vois pas pourquoi on se casse la tête à chercher ouvert, fermé. Il y a des gens qui se disent laïcs et qui sont, en fin de compte, des fanatiques un petit peu, comme ça, anti-religieux. Mais la laïcité, c'est pas l'anti-religion. Hein. Voilà. Moi, l'idée du paradis, ça me paraît... Je comprends pas. Mais j'admets totalement que, pour certains, ça puisse être le but de la vie. Hein. Ça...
Oui, mais encore, le paradis, c'est une formulation, parce que dans la religion catholique, on parle d'un avenir avec le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est que...
Le royaume de Dieu.
Oui, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est que le loup coexiste avec l'agneau et que l'enfant puisse vivre sur le nid du cobra, c'est-à-dire un monde de justice, un monde de...
D'amitié,
oui, voilà, où finalement l'argument essentiel, c'est la relation avec les autres et une relation qui les respecte. Je me fais respecter et je respecte l'autre, ça me paraît important.
Et le royaume il est à venir, mais on le construit
sans perte de personnalité.
Oui, ouais, c'est cela.
Tout à fait.
Je pense que ça, c'est...
Le loup et l'agneau, il reste le loup et l'agneau.
Voilà, le loup et l'agneau.
Mais ils sont... Bon, c'est un idéal.
C'est un idéal.
Oui. Mais dans la Genèse, quand Dieu a créé le monde, au début, il a créé que quelques familles, puis après, ils se sont rendus compte que, ces familles-là pourraient imposer leurs lois. Donc, il a créé plusieurs tribus pour pas qu'il y ait une seule pensée dans le unique, toutes les tribus, avec leurs différentes pensées, cohabitent ensemble. Voilà.
Alors on peut penser les différentes tribus.
Il a créé qu'un humain. C'est cet humain-là qui a fait plus de tribus.
Oui,
c'est pas Dieu qui
les
a fait.
Quand on va dans une
chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se revendiquer d'être comme tout le monde, noir, blanc, rouge.
Tout à fait.
Parce qu'on est issu d'un seul humain. Par contre, si on dit que Dieu a créé plusieurs humains, alors rien ne va plus. Et là, on est au racisme pur.
Alors, c'est intéressant ce débat, parce que en créant un humain et en favorisant la fraternité, ça me paraît tout à fait intéressant, mais en même temps, en proposant à chaque humain d'être en relation avec lui. Dans la religion catholique, c'est ça.
Oui.
Le baptême, c'est vraiment la relation personnelle entre Dieu et l'enfant qui est baptisé, qui devient une personne. Et ça, je pense que c'est issu de la religion juive.
Ça, c'est la foi.
Eh bien, vous avez vu, le temps s'écoule. Merci pour ce débat. Et chers auditeurs, nous espérons vous retrouver sur les ondes de Radio Grand Ciel dans notre émission Mosaïque que vous pouvez podcaster. Bonne semaine à tous. Au revoir.
Au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. De mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer, surtout s'aimer.